Coluna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Cá estamos todos juntos consigo até muito perto das 23 horas. Depois de uma semana de interregno, voltamos a falar muito de futebol. Dentro de alguns instantes, contaremos ter na nossa companhia Costinha, antigo jogador do Porto, do Mónaco, também do Atlético de Madrid, entre outros clubes. Temos em estúdio Pedro Peixoto, treinador do Chatu, também o capitão de equipa, o Xerendara. Teremos também connosco na segunda hora o Hélder Esteves, o treinador do Lusitanos Samor. Teremos uma pequena reportagem em torno do jogo da Taça de França entre o PSG e o Rennes, com declarações de Lucas Hernandez e Mondanda. E teremos também Quentin Bernardo, que já passou por Portugal, está agora no Red Star. Tudo para si ao longo das próximas duas horas. Vamos falar de muitos temas, obviamente. E com toda a equipa, saúdo o Armindo. Olá, Armindo.
Boa noite. Olá, Manuel. Boa noite. Boa noite a todos.
Olá, Marco, como é que estás? Boa noite.
Boa noite, estou cansado.
Olá, Henrique, tudo bem? Boa noite.
Boa noite a todos e a todos.
Olá, Pedro.
Boa Olá. Noite. Olá, pessoal.
Bem-vindo à Boa tribuna. Noite.
Mas o Pedro hoje está cá como treinador ou como comentador de futebol?
Os dois.
Não sei, vocês é que sabem.
Lei do casquete.
Lei do casquete, é isso. E temos connosco também o capitão da equipe do Chatu, Xerén Ndara. Salut, Xerén.
Salut à tous.
Merci d'être venu à la tribune. Merci.
Merci à vous de m'accueillir.
Mm-hmm. On va parler un petit peu en portugais, ça te va?
Je vais essayer.
Já vamos falar com o Costinha dentro de alguns instantes, mas para já. Pour l'instant, on va la faire en français, comme ça, Chéré peut parler aussi un petit peu. Pedro, ça va bien pour Chatou, dites-moi.
Ça va.
5 matchs, 5 victoires, enfin les dernières.
Ouais, on est sur une bonne période actuellement. On a entamé une belle série. Et là, on entame la dernière ligne droite du championnat. Et on ira là où les résultats le dicteront. Donc voilà. On aborde chaque match comme d'habitude pour essayer de les gagner. Et si on... C'est un peu des phrases bateau, mais c'est vrai. Nous, c'est souvent match par match. Et on verra ce qui se passera à la fin.
Donc on peut le dire, parce qu'en début de saison, c'était d'abord s'adapter à la National 3, donc là, on peut dire que ça va, Chatou s'est bien adapté.
Après, tu sais, je pense qu'on est parti, comme je vous ai déjà dit, dans la découverte, un petit peu l'enthousiasme, mais c'est vrai qu'au début, ça se passait bien, et le but, c'était souvent, surtout de faire les points pour se maintenir. Là, c'est fait, le maintien est fait, donc là, l'appétit vient en mangeant, et sportivement, comme je dis souvent aux joueurs, sportivement, après, il y a le côté structure du club, c'est autre chose, c'est pas de mon domaine, mais en tout cas, sportivement, on va essayer de terminer champion, hein, clairement. Moi, je suis pas là pour refaire Giroud ou quoi que ce soit, mais début de saison, j'étais honnête en train de dire ça, parce que tu sais pas ce que tu vas rencontrer au quotidien. En plus, on a eu pas mal de pépins d'effectifs, en plus, durant l'année, encore actuellement. Donc, on peut très bien gagner les 5 prochains, comme ne pas en gagner un seul aussi. Ça, c'est des matchs serrés, ça se joue à peu de choses, comme encore ce week-end. Donc, si on peut les gagner, on les gagnera. Si on ne gagne pas, on aura quand même fait une belle saison pour le moment. Mais en tant que compétiteur, on veut terminer champion maintenant.
Et qu'est-ce qui fait que Chatou, justement, a su rapidement s'adapter à ce championnat? Est-ce que déjà le fait que ça ne soit pas une super DH, comme on le disait avant, avec tous les clubs de la région parisienne, et que ça s'est ouvert au bon moment, peut-être pour vous aussi, avec dans la recherche des clubs en Normandie surtout?
C'est vrai. Il y a de ça. Alors, souvent, on entend... Ah, les spécialistes, j'appelle ça souvent les experts en région parisienne qui vont vous faire une leçon que telle poule est plus relevée qu'une telle. Après, moi, j'ai juste un exemple à donner. C'est que les Mureaux ont été dans la poule parisienne de 3 ans de suite. Ils sont maintenus toujours 4-5e dans une poule dure, hein, que j'estime dure, parce que région parisienne, c'est pas forcément un jeu très très technique, mais c'est très âpre physiquement. D'ailleurs, on l'a vécu la semaine dernière en match en retard contre les Mureaux, justement, où c'était un match pas beau à voir, clairement. On gagne 1-0 très difficilement, avec très peu d'occasions, beaucoup de duels, et j'ai eu l'impression de retrouver un peu le côté DH de l'année dernière, la R1. Le championnat est différent. En fait, je l'ai déjà dit, c'est différent, ils proposent d'autres choses. Hier, on joue une très belle équipe d'Alençon avec beaucoup plus d'arguments offensifs que les Mureaux. On essaie de s'adapter, nous de proposer aussi toujours une identité. En ce moment, maintenant que les adversaires, vu qu'on a enchaîné les résultats, on voit très bien qu'ils nous regardent à la vidéo, parce que les matchs, ils les filment souvent, et qu'ils s'adaptent un petit peu à notre jeu. Nous, on essaye aussi de temps en temps de changer un petit peu pour surprendre.
Ça se voit que t'es un entraîneur. Ça se voit que t'es un entraîneur quand même.
Bon, écoute, en tout cas, je vais pas rester une heure à...
Attends, si la fédé écoute, c'est l'entraîneur à toi.
Ouais, c'est vrai, merde, attention. J'espère qu'ils vont pas. Bon, en tout cas, on essaie de s'adapter, mais c'est pas le même jeu. Et voilà, les Mureaux aujourd'hui sont derniers. J'espère qu'ils, pour eux, qu'ils vont se maintenir, parce que c'est une équipe des Yvelines. Et ils sont quand même, je crois, qu'à 30 points de nous, il me semble, ou à 25.
Ouais, ils peuvent plus nous accrocher, je crois.
Voilà, non, ils peuvent pas, mais pour dire que c'est pas si facile que ça. C'est différent, mais pas facile. Et on a eu des périodes où on a joué des équipes encore ce week-end, 3-1. Ça reflète pas forcément le match, en toute honnêteté. Mais voilà, donc on avance match par match, on essaie de s'adapter. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir dans le jeu, plus de plaisir qu'en région parisienne.
Un petit mot de Chelet.
Oui, non, le coach a bien résumé la situation. Notre adaptation s'est faite assez rapidement, j'ai envie de dire. Après, comme il a dit, c'est un championnat un peu différent. C'est moins physique, mais c'est beaucoup plus dans la technique et dans la justesse. Nous, on a réussi à s'adapter. Je trouve qu'on a d'assez bons joueurs. En fait, je trouve qu'on a un groupe assez homogène. On a des joueurs assez bons physiquement, on a des joueurs bons techniquement et on arrive à. En fait, on a ce côté Île-de-France. Tout le monde le dit en parlant de nous. On a ce côté Île-de-France dans l'intensité, dans ce qu'on met dans les matchs. Mais on a aussi ce côté technique et la justesse. On a travaillé avec le coach. Il nous dit souvent qu'on n'est pas très très juste, qu'on devrait s'améliorer sur ça. Mais au final, on marque beaucoup de buts. On est une des meilleures attaques du championnat. Donc c'est qu'on arrive à proposer certaines choses. Donc ouais, on a réussi à s'adapter au championnat. Et aujourd'hui, de base, le but c'était le maintien. C'était le maintien. Honnêtement, on connaissait pas le championnat. Il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué à ce niveau-là. Et on a pris les matchs les uns après les autres, comme on avait fait l'année dernière. C'est vraiment l'année dernière on monte, mais au début de l'année, il n'y avait pas d'objectif monter. C'était les matchs les uns après les autres. On a fait des bonnes séries comme on est en train de faire. Et ça nous a permis de monter. Et aujourd'hui, on repart sur le même principe. On prend les matchs les uns après les autres.
Très bien, chez Léon, on va revenir bien sûr pour parler encore un petit peu plus de Chatou, bien entendu. Nous, on vient de commencer l'émission. Pour l'instant, vamos para a língua de Camões e vamos até Portugal para falar um bocadinho com o Costinha, antigo jogador de Porto, Mónaco, Atlético de Madrid, entre outros. Costinha, o francês, como é que está? Tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
E o francês, como é que está?
Je crois qu'il va encore. Il va encore bien.
Ainda está muito bom.
Ainda é governadora, não? Ministro.
Ministro.
Sem a pasta. Só o título mesmo.
Costinha, em todo caso, muito obrigado por estar na nossa companhia. É um prazer tê-lo aqui na Tribuna Desportiva. Vamos falar um bocadinho do futebol em Portugal, nomeadamente daquilo que aconteceu, os últimos dois derbys entre Benfica e Sporting. No Porto, que perdeu já um bocadinho de terreno. Assim, olhando para o campeonato português, em traços gerais, o que é que se pode dizer? Costinha, qual é a sua opinião?
Bom, boa noite e obrigado também pelo convite. É sempre um gosto de estar num programa onde se pode falar português e num país que me acolheu em termos desportivos muito bem. Foi o princípio da minha aventura profissional em termos daquilo que é o alto nível e, portanto, é sempre bom. Diria que o campeonato português este ano teve, durante algum tempo, quatro equipas a lutar pelo primeiro lugar. Neste momento o Sporting é a equipa que está em vantagem, tem 4 pontos de vantagem sobre o Benfica, com um jogo a menos que o Famalicão, que é sempre uma saída difícil, e toda a gente sabe que mais para a frente vai o campeonato, mais ansiosos as equipas vão ficando, os jogadores, os treinadores, e portanto, porque há equipas que jogam para se manter na primeira liga, portanto é sempre mais complicado, mas o que é certo é que o Sporting tem mantido uma regularidade muito forte ao longo deste campeonato. Penso que é uma equipa que conta só por vitórias os jogos que fez em casa, e isso diz muito daquilo que o trabalho de Ruben Amorim tem sido feito nesta liga, numa equipa de Benfica que individualmente é uma equipa com jogadores muito fortes, se calhar coletivamente não está tão forte como a época passada, e isso também se vê naquilo que tem feito ao longo desta temporada. Muitas vezes é o individual a salvar o coletivo, e efetivamente, se calhar, aqui dizemos que a equipa do Futebol Porto, que é uma equipa que normalmente costuma ser muito aguerrida, uma equipa que normalmente não perde tantos pontos em casa, este ano já cometeu alguns deslizes em casa que penaliza bem e bastante, e neste momento está uma diferença grande dos dois da frente, e juntamente com o Sporting Braga, que também começou muito bem, mas que foi perdendo algum gás nas últimas jornadas.
Em relação, Costinha, precisamente ainda a estes três grandes, junta-se agora, quer dizer, já há alguns anos, já com a junção também do Braga, que tem feito ali um grande esforço para se juntar aos três da frente. Sim. E agora temos também um Vitória, não é? Que está ali na luta, pelo menos pelo terceiro lugar.
Sim, o Vitória está muito bem, o próprio Aroca com o Daniel Sousa, que é um excelente treinador, e que para o ano irá assumir a formação do Braga. Portanto, o Rui Borges também está a fazer um grande trabalho na formação do Moreirense. Portanto, Portugal sempre a demonstrar a sua capacidade em termos de qualidade dos seus treinadores. Mas é verdade que a equipa de Vitória de Guimarães, o Álvaro Pacheco deu ali uma qualidade e até o próprio cunho pessoal àquela formação de Vitoriana, que é uma cidade que vive muito o futebol, tem uma força muito grande por parte dos seus adeptos, que também é importante para o Campeonato Português ganhe cada vez mais força e mais peso em termos de adeptos nesta competição. E é sempre bom ver estas equipas poderem juntar-se aos grandes, para que não haja uma decalagem tão grande em termos de pontos no final da temporada. E nós vemos que o Sporting leva 4 pontos de avanço do Benfica, mas depois do Benfica para baixo, é verdade que também há ali uma diferença do Porto para o Benfica, mas depois as equipas estão muito perto, 58, 56, 56, portanto, já há muito tempo que não se via, se calhar as equipas estão próximas do terceiro para o sexto, sétimo lugar, e nesta altura já se começa a ver um bocadinho, isso é fruto da capacidade e da qualidade que os treinadores têm colocado nas suas equipas e também da forma como os jogadores têm absorvido essas ideias destes próprios treinadores.
Sim, boa noite, ministro. Ia dizer ministro, podia. Justamente, como foi a tomada de posse há pouco tempo.
Nossa, ele manda uma garrafa de...
Não, isso diremos depois, ok? Não, queria saber justamente, depois de já ver um pouco o que é que está-se a tramar agora neste campeonato, o que é que está a achar desta edição e se está a gostar o que é que está-se a passar agora neste campeonato, a ver já um Sporting talvez, ia dizer, mais esmagador, que claramente está a tomar posse também do poder em Portugal, e de resto ver um Benfica atrás que está a tentar de corrigir os erros do início, mas que está com dificuldades, e o Porto que parece que está a viver um momento muito difícil em transição, o que é que está-se a passar, aliás, em paralelo às eleições.
Bom, diria que o Sporting tem mantido uma linha desde que o Ruben Amorim entrou na equipa, portanto há uma linha que se vê claramente que é traçada pelo Ruben Amorim e pelo Hugo Viana. O Presidente é apenas a pessoa que tem que lidar institucionalmente do clube, e isso é muito importante. O Sporting foi sempre um clube onde havia sempre muita instabilidade, muitos problemas, toda a gente falava, e neste momento fala o treinador, fala o diretor desportivo quando tem que falar, e o Presidente fala quando tem que falar de situações institucionais, que é muito importante. Portanto, mantém ali uma linha de uma equipa de um plantel curto, com muitos jovens, com uma base. É importante também ter essa visão sobre esta equipa, esta formação do Ruben, que efetivamente, se calhar, em termos de fidelidade de plantel, pode não ter, se calhar, os jogadores que têm o Futebol Clube do Porto ou que têm o Benfica, mas tem trabalhado muito bem, tem conseguido reagir muito bem até às ausências de alguns jogadores por lesão ou por castigos, porque nota-se que é uma equipa que está imbuída nesse espírito, e portanto a equipa anda à procura, foi campeã em 2021, está há 3 anos sem vencer o campeonato, tem neste momento a possibilidade de poder vencer este campeonato, porque vai à frente com 4 pontos de avanço e mais um jogo de atraso, que ainda não o venceu, mas leva 4 pontos de avanço, que é uma vantagem considerada nesta fase de avançar do campeonato. Mas também é verdade que as próximas jornadas para o Sporting não são jornadas fáceis. Vai a Barcelos, que acaba de trocar de treinador, sai o Vítor Campelos, que é outro excelente treinador, que não resistiu aos resultados, sobretudo ao resultado da última jornada. Joga com o Famalicão nesse jogo de atrás também, que também trocou o treinador, tem o Ivan Evangelista, que também entrou muito bem na formação do Famalicão. Depois joga com o Vitória de Guimarães em casa e tem o Futebol Clube Porto no Dragão. E, portanto, são jogos que, efetivamente, em termos de concentração, de rigor, de ambição, de determinação, serão muito importantes para esta formação leonina. Portanto, o Benfica vai sempre jogar na expectativa de pensar que o Sporting não vença o jogo em atraso para poder manter os 4 pontos, e depois pensar que entre Barcelos e Porto e Vitória de Guimarães, sobretudo estes 4 jogos, que o Sporting possa perder esses pontos para o Benfica poder alcançar essa meta. Tem pelo meio um jogo para a Liga Europa com o Marselha, portanto também é um jogo importante, até em termos de mentais. Pode ser importante, porque o Benfica vem de ser eliminado da Taça de Portugal pelo Sporting, perde em Alvalade na parte final do jogo, portanto, se esta quinta-feira não consegue dar uma resposta positiva, pode também a equipa aqui, se calhar, acusar um pouco esta pressão, e a pressão que está instalada no Benfica, sobretudo sobre o treinador Roger Schmidt, que é porque a passada fez uma época espantosa, fabulosa, e que este ano não tem conseguido dar esse contributo, a equipa não tem conseguido, se calhar, demonstrar o potencial que tem, mas isso é apenas aquilo que nós vemos em termos classificativos, em termos de jogo, porque o Schmidt saberá muito, muito melhor aquilo que se passa no seu balneário. O Futebol Clube Porto, efetivamente, é uma equipa que não estamos habituados a ver, se calhar, claudicar tantas vezes no campeonato, é uma equipa sempre que dá sempre muita luta, que vende sempre muito cara o seu afastamento de uma possível luta pelo título. Tem muitos pontos de desvantagem, é verdade, e não é uma tarefa fácil, mas também tem ainda um segundo jogo da Taça de Portugal para poder classificar-se para essa final, onde o Sporting já está classificado. E seguramente é um ano instável, que depois também é marcado pelas eleições, como é óbvio, mas acredito que esta equipa do Futebol Clube Porto até ao final vai tentar fazer o melhor, e quem conhece o Sérgio Conceição sabe que isso é o que é pretendido. Mas numa equipa, num ano em que não é muito, não está a correr tão bem, eu percebo um bocadinho, porque em 2004, 2005, depois de ser campeão europeu, aconteceu um pouco também com aquela equipa do Futebol Clube Porto, onde não conseguimos manter a regularidade que queríamos, perdemos muitos pontos em casa e acabamos até por acabar o campeonato a 2 pontos do Benfica, portanto, mesmo com a irregularidade que fizemos. Portanto, às vezes essas situações podem acontecer, essa instabilidade. Este ano nós tivemos 3 treinadores, este ano há instabilidade em termos daquilo que é as eleições, penso eu, digo eu, porque também não estou a ver tão perto essa situação, não tenho os dados completos, mas o que é certo é que o Futebol Clube Porto fez uma excelente prova em termos de Liga dos Campeões, mas em alguns momentos do campeonato teve alguns resultados que os penalizaram e que neste momento os deixam numa situação muito complicada para poder lutar por essa conquista do título nacional.
Costinha, penso que ainda esteja atento ao futebol francês. O que é que lhe parece este Marselha em relação a essa eliminatória, a 2 mãos com o Benfica? O que é que poderemos esperar deste eliminatório?
Penso que são duas equipas em termos mentais que estão muito próximas. Já vai no terceiro treinador, o Marselha, salvo erro.
Sim.
Portanto, é uma equipa difícil, porque é uma equipa que tem a sua história, mas o Benfica também o é. O Benfica sabe que neste momento é a única competição onde se calhar se pode agarrar, tendo em conta o seu historial e tendo em conta aquilo que quer até o final da época, para poder se calhar ter alguma conquista, isto partindo do princípio que em termos de campeonato o Sporting não perca pontos. Se o Sporting perder pontos, o Benfica tem que olhar para as duas situações de forma diferente. Mas é uma equipa de Marselha que, curiosamente, com a saída do Gattuso até fez bastantes gols, teve algumas vitórias gordas no campeonato, vem de uma derrota de 3-1 com o Lille do Paulo Fonseca, que está a fazer também um campeonato extraordinário, mas é uma equipa que, na minha opinião, se o Benfica estiver no seu nível em casa, é uma equipa que o Benfica pode bater. Depois o problema, na minha opinião, tem a ver com esta instabilidade que o Benfica tem em termos de consistência, de jogar um velodrome, que é sempre um campo muito difícil, com uma massa adepta também bastante forte e e que perde bastante aos jogadores e que pode complicar, mas para já acho que é uma eliminatória onde o Benfica poderá efetivamente, se tiver a sua capacidade mental no topo, se calhar de poder levar, de vencer esta formação de HC.
Costinha, este Marselha é muito diferente ou está muito longe do Marselha que defrontou na sua altura?
Bom, basta só olhar para o plantel do Marselha dessa altura e para o plantel de agora. E, portanto, falamos do Marselha do que jogou com o Benfica, quando eliminou o Benfica? Quando o Benfica eliminou? É
sim,
isso?
Sim, nas temporadas em que estive lá, sim, sim.
Onde eu estava, quando eu estive no Mónaco?
Sim, sim, quando estive no Mónaco, claro.
Sim, temos que dizer que não sei se há algum Robert Pires no Marselha, não sei se há algum Dugarry no Marselha, não sei se há algum Ravanelli no Marselha, não sei se há algum Laurent Blanc no Marselha. O Marselha tem bons jogadores, é verdade.
São nomes pequenos.
Mas comparativamente com estes jogadores que eu apanhei, porque é um outro tempo, é diferente. O Marselha também teve alguns problemas financeiros, portanto, e também a ascensão deste Paris Saint-Germain, em termos de qualidade de jogadores que conseguiu trazer para a França, acaba por retirar também algum peso a esta formação do Marselha, que foi sempre uma equipa muito difícil, que era uma equipa habituada a lutar por títulos, mas o que é certo é que nos últimos anos a Vila de Marselha não consegue ter uma equipa, se calhar, que faça lembrar os pergaminhos de Marselha dos tempos de Bernard Tapie, quando tinha aquelas super equipas que apresentavam no campeonato e que permitiu ser campeão muitos anos, um pouco à semelhança do Lyon, durante tantos anos com o Sr. Olas, que tinha sempre jogadores de grande qualidade, que dominou um pouco o futebol francês, E portanto, e passou, parece que passou do Marseille para o Lyon, em termos de domínio de muitos campeonatos seguidos, e depois agora do Lyon para o Paris Saint-Germain. Pelo meio vai-se intermetendo o Mónaco, vai-se intermetendo o Lille, vai-se intermetendo o Montpellier, o Nice, mas sempre de forma muito, muito pontual, porque depois com essas equipas conseguem manter essa qualidade de jogadores que normalmente não se conseguem trazer para o seu plantel, torna-se muito complicado depois de fazer frente a essas próprias equipas.
Mas Costinha, eu também queria chegar a este ponto, que é com esta ultra-dominação do Paris Saint-Germain, às equipas francesas apenas lhe resta as competições europeias ou uma Taça de França. O Benfica pode, por exemplo, lutar pelo campeonato e por outras provas, mas o Marseille, neste momento, só tem isto. Até aqui em França se diz o tudo ou nada para o Marseille. Também podem pensar nesse aspecto.
Óbvio, vão pensar certamente. Eu penso que uma cartada que o Marseille tinha que jogar teria sido ir vencer a Lille, que era para encurtar a distância para as equipas que vão na frente. Não o conseguiu fazer, e há muitas equipas ali, e que são boas equipas, também a tentar encontrar essa posição europeia. O Mónaco tenta chegar ao segundo lugar, mas o Brest não desiste, tem feito uma temporada também fantástica, e portanto é sempre complicado, e para o Marseille, obviamente que essa é uma questão primordial. Por isso eu disse que o Benfica, para passar esta equipa de Marseille, tem que ser uma equipa consistente, uma equipa ambiciosa, uma equipa determinada, e perceber que o jogo do Sporting já passou, o campeonato neste momento está em hold, porque não pode querer pensar nas duas coisas, tem que pensar exclusivamente na quinta-feira. Tem uma primeira mão muito importante, porque a segunda mão jogam em Marseille. Portanto, e não vai querer, eu penso que não é bom, sobretudo nesta fase que o Benfica tem, de levar uma segunda mão para disputar num estado emocional que não seja tão forte, num clube e numa cidade que vai viver esse jogo como se fosse uma final de Liga Europa já.
Costinha, a partir da manhã vamos ter já os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Gostava também de ter a sua opinião sobre um grande Real Madrid-Manchester City, mas também falar um bocadinho do PSG Barcelona, já que jogou em França e conhece...
Vou simplesmente perguntar para ele qual é o seu favorito nesta Liga.
Só isso.
não tenho favoritos, porque eu penso que estes jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões são jogos muito interessantes. Eu acho que qualquer adepto do futebol, qualquer treinador, vai tentar encontrar e tentar perceber as estratégias que vão haver nesses jogos, porque nós falamos de um Arsenal com o Bayern. Há pouco falávamos que o Marseille só tinha a Liga das Europeias para poder vencer ou triunfar. O Bayern é igual na Alemanha, porque o Leverkusen praticamente é campeão. Portanto, o Arsenal tem que lutar contra o City, contra o Liverpool, anda ali naquela que está bonito, 71, 70, 70, mas não se pode deixar ultrapassar. Portanto, vai ter que fazer essa gestão. O Bayern não tem nada a perder, só tem a ganhar, já no campeonato nada, taça nada, portanto, só Liga dos Campeões. Portanto, o City Real Madrid é aquele jogo que toda a gente se calhar imaginava que era a final. Estamos a falar da equipa que venceu a competição na época passada, que toda a gente vê e gosta de ver jogar na Liga Inglesa e não só, contra a equipa, o clube com mais títulos europeus em termos de competições de Champions League. E toda a gente sabe que o Real Madrid, mesmo quando está com aquela máquina do soro, a fazer só pip, pip, consegue pôr aquilo a acelerar e consegue dar a volta, como demonstrou nos últimos anos, não o ano anterior, mas no ano em que foi campeão, onde eliminou o Paris, o Chelsea, o City, em jogos já estava eliminado. Portanto, são jogos fantásticos. Do outro lado temos um Atlético de Madrid contra um Borussia Dortmund, e arrisco-me a dizer que o Atlético de Madrid, porque depois cruza-se com o vencedor do PSG com o Barcelona. Portanto, tudo pode acontecer. É uma equipa cínica, é uma equipa difícil de bater, é agressiva, que vai jogar também com o Dortmund, também no campeonato, não tem nada, anda também a tentar lutar pela competição europeia, mas tem o segundo jogo em casa, naquele estádio, que é sempre complicado. O Dortmund tem para mim um plantel de grande qualidade, nem sempre, se calhar, demonstra o jogo, se calhar que toda a gente gostaria de ver com a qualidade que os jogadores que têm, mas o que é certo é que tem um plantel de grande qualidade, grandes nomes, grandes atacantes, grandes médios, com defesas experientes. Portanto, será um jogo difícil. E finalmente temos o PSG-Barcelona. Portanto, o PSG, que na minha ótica, o que mudou nos últimos anos para este, é que eu penso que o Luís Henrique conseguiu dar à equipa, também fruto das ausências de Neymar e de Messi, que são grandes jogadores, e era sempre bom ver esses dois jogadores jogarem, ao contrário de muitos diziam que, na minha ótica, que era difícil, era caótico, mas são dois grandes jogadores. Mas o que é certo é que hoje o PSG parece mais uma equipa. O Luís Henrique conseguiu dar, não é só um conjunto onde há grandes jogadores, porque ganham alguma relativa facilidade a Liga Francesa, assim o demonstram, mas hoje procura mais tentar fazer uma equipa. Há uma ligação melhor, é uma equipa que joga bem, tem muitas soluções em termos de qualidade para poder mexer contra um Barcelona que, voltamos outra vez à mesma conversa, e peço desculpa por me repetir, a Liga Espanhola é difícil, e portanto anda ali, ninguém dá nada por eles, e estão nos quartos de final. E se olharmos para o plantel do Barcelona, em termos de nomes, é um plantel com grande capacidade e qualidade. Portanto, está tudo aí aberto. O Paris seguramente não se esquece daquele célebre jogo onde, com o Unai Emery, onde tinha a eliminatória no bolso e de repente, com uma goleada, acaba por tirar essa possibilidade. E portanto, será um jogo, na minha opinião, de qualidade máxima, de uma equipa que já tem praticamente o campeonato no bolso em França e outra que sabe que tem muito pouco a perder e tem muito a ganhar, mas tem um prestígio também grande que é o Barcelona. Portanto, ninguém pode dizer que o Barcelona está acabado. Estamos a falar do Barcelona, é uma equipa com uma história e que tem jogadores com muita qualidade, embora a consistência, voltamos a dizer assim, e a forma de, e os resultados que apresenta tem apresentado no campeonato, de alguma inconsistência, irregularidade, se calhar não lhe dê um favoritismo grande, mas não se pode pôr de parte esta formação do Barcelona.
Costinha, agora duas pequenas questões ligadas a si, como é que está o Diogo Costa?
O Diogo Costa está muito bem, está a fazer o seu...
Já está com 19 anos, não é?
Está com 19 anos, está a fazer, fez a sua primeira temporada como profissional este ano, no meu clube de formação oriental, é aquilo que um pai deixa para um filho, tem que fazer o seu caminho, é um miúdo com qualidade, e não é por ser meu filho, porque eu puxo-lhe as orelhas quando tenho que puxar e explico-lhe as coisas que tenho que explicar, porque quem tem que ser jogador de futebol é ele, não sou eu que tenho que ser por ele, ele tem que se querer mais do que eu, mas é um miúdo que tem qualidade, e que percebeu que de passagem de juniores para séniores exige uma regularidade, uma consistência, uma determinação diferente, porque já não está com miúdos, está já com homens, e portanto tem que se aperceber. Portanto, acho que este primeiro ano foi muito importante para ele, porque fez bastantes minutos ainda, sobretudo no início da temporada com o Mister Tuk, depois passou ali um bocadinho ao lado com o Mister Rui Macedo, e depois na parte final voltou outra vez a ter os seus minutos, e portanto terminou agora a temporada, é verdade, tirou divisão, mas eu penso que em termos de capacidade de perceber aquilo que é o futebol e aquilo que ele quer para o futebol, foi uma primeira época importante em termos daquilo que é as valências que ele tem que ter para o futuro. E, portanto, se ele, a próxima época, perceber aquilo que tem que fazer, aliado à sua capacidade e qualidade, acredito que o Diogo possa manter a sua prestação no futebol, depois não sei se a um nível alto, ou a um nível médio, ou a um nível baixo, depois vai depender dele, mas que ele tenha essa capacidade, ele tem. Agora depende exclusivamente dele e não dos outros.
Acostinho, ele é médio, é mais ou menos a sua posição ou não?
É um 8. Eu diria que é um jogador com
mais ofensivo,
mais habilidade que o pai, não significa que tenha mais técnica, porque técnica e habilidade são coisas diferentes. É um jogador com mais habilidade. Eu era um jogador muito mais imponente naquilo que era a ocupação de espaços, a leitura, as coberturas,
mais seguro,
tinha uma leitura do jogo, mas porque também estamos a falar de períodos e épocas diferentes, onde eu joguei futebol na rua, aprendi muito com os miúdos, com os mais velhos na rua. Estes miúdos agora aprendem na PlayStation, não vão jogar para a rua, portanto tem outro tipo de valências que nós não tivemos, mas que a nós nos fez bem, porque nós tínhamos que correr atrás do nosso objetivo, ninguém nos ia dar, portanto, e era difícil. Hoje em dia, quando eu tinha a idade do Diogo, com 17, 18 anos, contava-se pelos dedos os jogadores que chegavam aos clubes grandes ou iam para a primeira divisão. Os miúdos com 17, 18, 19, basta fazer um, dois jogos bons, com as paragonas dos jornais, com os empresários, muitas vezes chegam à primeira liga. O problema não é chegar lá, o problema é manter. Pode chegar muitas vezes. Manter-se lá é que é o complicado. E, portanto, por isso eu disse, ele tecnicamente é um em termos de habilidade é um jogador evoluído, tem golo, tem drible e tem aquela irreverência que eu acho que o 8 deve ter. Portanto, consegue fazer o jogo, um jogo box-to-box. Agora, depende muito daquilo que eu disse, assim, depende muito dele. É, mais do que o pai falar, não é? Ele é que tem que se demonstrar e, portanto, ele é que tem que fazer pela vida. Eu não posso jogar por ele.
E em relação a si, Costinha, como é que é? Já sei que anda para aí a vender umas garrafinhas boas.
Em relação a mim, eu continuo como treinador. Vamos ver se esta época finalmente volta ao ativo. Há boas perspectivas. E, portanto, paralelamente a isso, há um negócio novo que surgiu na minha vida. Não estava à espera que esse negócio surgisse, mas foi uma oportunidade de negócio boa para a aquisição de uma vinha em Mirandela, com um sócio que eu gosto muito, tenho confiança, um bom produtor, um excelente enólogo, portanto, e temos tido a sorte e a capacidade de poder, neste momento, as nossas primeiras duas edições estão a correr muito bem. A segunda até já venceu um prémio em termos nacionais, como terceiro vinho português, portanto, numa prova cega com mais de 46 júris, não só nacionais como internacionais, portanto, isso deixa-nos muito satisfeitos. Mas também não nos põe, pelo menos a mim, não me põe em bicos de pés, porque eu sei bem no país em que vivo, sei bem a qualidade e capacidade que têm os nossos produtores em Portugal e os vinhos portugueses, e portanto fico satisfeito por dar também a trazer algum aporte a esta área e esperar que continue a correr da forma como está a correr, que já não é nada mal.
Em relação ao futebol, não pode dar em primeira mão para campeão.
Nem em primeira, nem em segunda.
Costinha, em todo caso, foi com muito gosto que tivemos aqui na tribuna. É sempre um prazer falar consigo. E quando vier a Paris, já sabe,
pode passar. Irei estar aí em breve. É um gosto poder também falar de futebol. E eu sei muito bem, muitas vezes, já fui imigrante, e sei muito bem que às vezes, quando estamos fora, a dificuldade que é muitas vezes temos a ouvirmos os jogadores ou as jogadoras do nosso país mãe e ouvir as suas opiniões. Espero que tenha elucidado.
Claro que sim, claro.
Tenho elucidado as pessoas com a minha opinião, mas é sempre um gosto poder partilhar também os meus pensamentos com quem gosta de os ouvir e com quem tem também essa curiosidade em saber a minha opinião.
Obrigado, Costinha, grande abraço. Nada,
obrigado. Um abraço grande.
Costinha, antigo jogador de Porto, Mónaco, Atlético de Madrid, entre outros clubes da nossa companhia.
Tu falas do Atalanta, não
já vamos,
nem do Atalanta, nem do Dinamo Moscovo, então, isso é uma carreira.
Nem do Boa Vista, largamos que sei eu.
No Atalanta fez um jogo, não foi?
Apontar vela um bocado.
Sim, está aí no 0-0.
Sim, mas depois
a gente vai do Boa Vista. Já vamos voltar para falar com o Pedro e com o Xerez, já vamos voltar dentro de alguns instantes. Fique na nossa companhia, vem um pequeno espaço comercial. Até já. Rádio
Alfa. Tribuna Desportiva.
Pedro, vamos guardar um bocadinho o chatu para a segunda hora da nossa emissão de hoje. Falaremos também com o Hélder Esteves, estaremos com ele para falar também um bocadinho do Lusitanos de Samor, que está no, na mesma divisão, Nacional 3. Mas, por l'instant, on va parler un petit peu de la Ligue des Champions, du championnat portugais et de Porto, une petite opinion, pas très dégoûté, pas trop dégoûté. Par rapport à Porto aussi, quand même un petit peu.
Si, un petit peu, quand même, un petit peu, parce que bon, la fin du championnat, quand même, on s'attendait à mieux, surtout après la... Après les deux matchs contre Arsenal, je m'étais dit ça va peut-être les lancer sur une belle dernière ligne droite pour pourquoi pas aller chercher la Ligue des Champions, sachant qu'il y a plus que deux places. Mais bon, je pense que il y a toutes les polémiques d'arbitre. Bon, on a l'habitude, mais ça excuse pas tout. Voilà, on retrouve ce Porto qui a beaucoup de mal. Je le dis depuis longtemps, qui a beaucoup de mal quand il s'agit d'être en attaque placée. Et de déséquilibrer des blocs défensifs bas, un peu ce qu'ils ont fait contre Arsenal, quoi. Donc un peu dans l'autre rôle, ils ont un petit peu de mal et ils laissent pas mal d'espace en transition. Et en ce moment, ils sont pas dans une période de confiance, ils se font punir. Donc c'est une fin de championnat un peu en roue libre. Il va falloir faire attention derrière là, parce que il y a pas beaucoup de place pour la Ligue Europa avec Braga et Guimarães qui se sont rapprochés. Donc voilà, on va suivre la fin de championnat parce que on suit toujours, mais bon, un petit peu dégoûté qu'ils aient au moins pas pu lutter pour la deuxième place jusqu'au bout.
Et Et du coup, le discours de l'entraîneur, toi qui es entraîneur, ça te plaît, ce discours de Serge Concessant? Un coup, il va pas en conférence de presse. Un coup, il vient dire hier, encore comme bien souvent ces derniers temps, que c'est à cause de l'arbitre qu'il ne remporte pas ses matchs. Ça te va comme discours?
Non, enfin, moi, il y a un côté, bah, justement, on y vient par rapport aux élections. Un petit peu, c'est un peu aussi les deux camps là qui s'affrontent. Celui qui est un peu bon contre tout et contre tous. Moi, je suis un peu plus. Enfin, j'essaie de peut-être le fait que je sois à l'étranger, d'être peut-être moins, parce que quand on est au pays, souvent on devient plus fanatique par rapport à ça. Et on sait les opinions de café, ce que ça donne, les copains, etc. Donc ça vous, les avis sont exacerbés, mais c'est vrai que moi, ça me fatigue. Je suis honnête avec toi, ça me fatigue un peu. C'est toujours cette histoire de à la fin, dès qu'on perd, toujours les arbitres. Alors effectivement, hier peut-être, rouge, on peut dire qu'il lui donne mes bons pep. On sait comment c'est. Et je trouve que même la dernière fois, le fils Concessao, son attitude à Estoril, je comprends pas. Et toujours ces trucs-là de d'excuses d'arbitre, c'est fatigant sur la longue, parce qu'à un moment donné tu caches le vrai problème en faisant ça. Donc tes lacunes, parce qu'il y en a des lacunes, quand tu prends deux buts hier, bah c'est pas l'arbitre, et quand tu en mets pas et que tu te crées aussi peu d'occasions contre des petites équipes, c'est pas l'arbitre non plus. Et ouais, moi les fins du match, ça me fatigue un peu, parce que justement en tant que supporter portugais, je l'ai jamais caché. C'est bien de faire tout ce cinéma autour. Après, Benfica au Sporting, quand ils sont dans des mauvaises phases, ils le font aussi, mais c'est moins exacerbé. Porto, ça a toujours été un peu plus, mais en ce moment, ça tourne un petit peu au ridicule, toujours de...
C'est pas la fin d'une ère, là.
C'est possible, ouais, je me le dis des fois.
Parce que quand on regarde même le 11, on se demande pourquoi depuis deux mois, même s'il était un peu moins bon, mais Mehdi Taremi, un coup il est sur dans les tribunes, un coup il est sur le banc, un coup il rentre 10 minutes, un quart d'heure, quand c'était ton meilleur buteur la semaine dernière.
Alors que t'as raison, parce que je comprends pas trop la logique, parce que je me rappelle les autres années quand il y avait des mecs en fin de contrat, je me rappelle Herrera, etc. Mariga, ils sont allés au bout quand même avec cet entraîneur. En tout cas, ça, avant, il y a très longtemps, Porto, quand il y avait un mec en fin de contrat, il le mettait sur le côté, il le disait, bon, tu veux pas signer, tu joues pas. Mais là, ces dernières années, c'était pas le cas. Et là, Taremi, d'un coup, je pense qu'il y a aussi, il a changé tactiquement quelque chose, tu sais, il est passé à 3 devant, et Taremi, il est arrivé de sélection, et à ce moment-là, il jouait plus en 4-4-2 comme il faisait avant, et il a mis, justement, Francis Concessao sur le côté, il a commencé à jouer avec des ailiers, et il a privilégié le fait d'avoir Evan Nilsson. Je pense, honnêtement, que c'est un choix technique.
Hier, par exemple. Hier, il jouait avec Dani Damaso.
Ouais, bah je pense que effectivement il se dit bah le gars il est dans le groupe peut-être pour la saison prochaine, et c'est vrai que bah sur la fin, je pense peut-être en train de préparer la suite, mais il l'avait pas fait les deux années, donc là-dessus je suis d'accord avec toi, ça manque de cohérence. Moi j'étais surpris aussi de voir Namazo entrer hier, mais bon, moi on n'est pas à l'entraînement, peut-être que c'est des choix, il le sentait bien à l'entraînement. Bon, ça, sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Ou peut-être maintenant, ils ont choisi de mettre Taremi sur le côté parce qu'ils sont peut-être pas contents. Tu sais, il y a eu une polémique à un moment donné qu'il est parti à l'Inter, qu'il devait partir faire sa visite médicale. Au final, il l'a pas faite ou il l'a annulée au dernier moment. Donc, je pense qu'il y a de ça et il y a une rancœur. Je pense qu'il y a une rancœur là-dessus, et même de lui, parce que là-dessus, Concessao, il lâche pas quand il en veut à un joueur. Ça peut être compliqué pour lui. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il a une rancœur et depuis, il a plus joué. Donc, voilà.
Et si Porto remporte la Coupe du Portugal, tu considéreras que c'est quand même une saison...
Non, moi personnellement, non. Non, parce que bon, bah, Porto la remporterait, c'est très bien de gagner un titre, mais ça ferait la troisième, je crois, d'affilée, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais non, pour un club comme ça, non, parce que ça pourrait être une saison pas mal si tu arrives à aller en Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est important économiquement.
Benfica,
mais c'était l'éclaircie de la saison, et ça, je comprends pas. Comme tout souvent, les Benfica contre Porto, c'est incroyable. Je pense qu'ils font un complexe. C'est incroyable. C'est liquefi à chaque fois.
Mais Porto
souvent
n'a pas gagné sa saison avec ça.
Ben non, mais justement, là, tu changes
à la fin du match. Il me semble que c'était la victoire de la Ligue des Champions, du championnat et de tout en même temps.
C'est vrai, mais tout tombe bien à chaque fois, ou souvent, contre Benfica, et là, non, c'était pas le cas. Et je pense que les vrais supporters, et même, on voit très bien l'exigence actuelle, que les supporters sont pas contents, mais on sait très bien aussi l'importance qu'a le match de Porto-Benfica, et à l'époque, en plus, il y avait encore cet espoir du titre, donc effectivement, ça avait été, et Benfica aussi, quand ils gagnent contre Porto, même l'année dernière, quand ils étaient au Dragon, ils ont fait une grosse fête. Ça reste des gros matchs, c'est plus qu'un match, ça, il faut pas se le cacher, mais c'est parce que tu gagnes 5-0 et que tu gagnes la Coupe que la saison est réussie. En tout cas, moi, de mon point de vue, non, parce que tu vas pas en Ligue des Champions, tu termines trop loin du premier, et tu peux pas, tu dois être au moins dans la lutte pour la deuxième place.
Et quand tu vois les affaires tout autour du club, il est vrai l'élection, Mais il y a aussi Fernando Madureira, qui est en prison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le premier supporter, celui qui donnait une impulsion dans le stade. Moi, quand je vois maintenant Porto,
t'as raison, il manque
quand même ce capot, en fait, qui porte, qui met la pression sur les joueurs, qui allait discuter avec les joueurs. On se rappelle les images où il allait parler avec les joueurs.
Possible.
Et là, du coup, il n'est plus là. Et on dirait qu'il manque quelque chose aussi, une certaine pression des supporters.
Laisse-moi juste surenchérir du fait que. Est-ce que Porto ne devrait pas aussi tout faire pour pas manquer sa transition?
C'est ça, ouais. Mais on se demande, et la question que tu te poses est vraie, et franchement, j'ai pas la réponse, mais je me dis, la transition là.
Là, on a peut-être, historiquement parlant, il y a un vrai virage à prendre.
Bah, moi, je trouve que la transition là, tu te dis, en plus, vu la saison sportive qui se termine un peu en autre cacahuète, mais je me dis, ça va vraiment être un tournant, parce que tu sais, ce côté, l'air Pindacoche, ça quand même, il a quand même beaucoup encore de partisans. Moi-même, je suis admiratif de ce qu'il a fait, mais je trouve aussi qu'il faut ouvrir une nouvelle ère, un autre discours, être un peu plus savoir être aussi quand tu perds. Enfin, ça fait partie de à un moment donné, il faut passer ce cap de contre tout et contre tous. Mais est-ce qu'il va arriver à le faire? Est-ce que le nouveau Villas-Boas, va arriver à le faire? Est-ce que s'il est élu et derrière ça se passe pas bien tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Il y a un gros risque. Donc cette transition, vraiment, je suis curieux de la voir. Mais est-ce qu'on va la voir? Pas sûr.
Parce que
avec Sergio Conceição ou pas, Pedro? Parce qu'on parle beaucoup de Gasperini et je sais pas.
Moi, je crois pas. Non. Honnêtement, je pense que si c'est Villas-Boas, il a beau. Par contre, je trouve qu'il est correct. Je trouve qu'il est très intelligent dans sa communication. Il met personne de côté. Il garde ce côté pultiste, mais et il reconnaît aussi les qualités. Parce qu'attention, hein, Sergio Conceição, moi le premier, je suis très admiratif. C'est un gars tactiquement, dès qu'il joue, même en Ligue des Champions, quand il joue des grosses équipes et même au Portugal, c'est très rare qu'il perde un grand match. Il sait très bien préparer ses équipes. C'est pas juste un gars qui insulte tout le monde quand il perd. C'est vrai que des fois, c'est un peu réducteur sa façon d'être. Non, mais c'est vrai. Et les adversaires retiennent beaucoup ça. Mais quand c'est vraiment un bon technicien. Mais des fois, il se perd dans ce truc-là. D'ailleurs, lui, bon, alors que je suis supporter de Porto, j'aimerais bien.
Il va pas tomber un peu dans une caricature de lui-même,
exactement,
un peu comme Mourinho à un moment donné.
J'aimerais qu'il aille ailleurs, dans un bon club, voir ce que ça donne. Parce que je suis sûr qu'il est assez intelligent pour s'adapter après un autre environnement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il y a trop le côté supporter aussi, et il sait très bien comment ça marche au Portugal avec cette pression de la presse, des arbitres, machin, et ça devient caricature, comme tu dis, et ça devient moche. Et pourquoi pas un entraîneur, enfin un nouvel entraîneur, une nouvelle ère. Moi, je pense que si c'est Villas-Boas, je le vois pas du tout rester, parce que si t'es élu, tu vas ramener un truc nouveau. Et tu veux, je pense pas qu'il restera. Et même avec Pindacoche, je crois pas qu'il reste. Là, c'est sa dernière saison.
On peut même globaliser, parce que quand on prend, enfin, contre la tournure, même le Sporting qui va être champion. Je pense un
changement de
coach.
Peut-être les trois.
Benfica, on ne sait pas.
T'as raison.
On se dit, en fin de compte,
c'est la contrat. Hein.
Mais je pense pas.
Et la contrat encore d'un an.
Mais tu vois,
il coûte cher.
Mais tu sens que le peuple, voilà. Mais tu sens que il y a un truc contre lui, tu vois. Et s'il n'y a pas de titre, bon, il te reste plus que la Ligue Europa, parce que bon, le championnat, je les vois pas revenir. Ligue Europa, pourquoi pas. Mais ça va être compliqué toujours d'aller
la
au bout.
Ligue des Champions la saison prochaine.
Oui, mais je pense que les supporters vont retenir le fait qu'il n'ait pas de titre, tu vois. Et comme il était déjà contesté en milieu de saison. Je pense que ce sera dur pour lui de poursuivre encore. Mais comme tu dis, il y a le côté financier où ça peut coûter cher. Donc
Sur ce championnat, pour passer autre Porto aussi, Sporting, c'est fait ou c'est pas fait?
Pour moi, là.
Il reste un match aussi en retard. Si ils sont en retard, ça fait 7 points d'avance.
T'as raison. Et d'ailleurs, Costinha l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'ils n'ont pas un calendrier un peu traite, là. Je crois qu'ils vont enchaîner. Bon, il y a le match en retard. Enfin, on a dit qu'on ne s'est jamais gagné d'avance. T'as Guimaraes. On a vu hier avec Porto, ça peut être toujours une équipe dangereuse et tu dois aller à Porto. Donc là, dans les prochains matchs, on va savoir. Je pense que s'ils arrivent à bien les négocier, ils ont quand même, on va dire, deux jokers. Quand tu regardes bien le match en retard, plus 4 points. Là, à ce moment de la saison, ça me semble beaucoup. Surtout que Benfica n'est pas serein non plus, tu sais, n'a pas un gros football.
Les compétitions européennes en plus en deux semaines.
Voilà, exactement.
Il ne fait pas beaucoup tourner son équipe.
En plus, il n'aime pas trop faire tourner Schmidt. Donc. Non, franchement, je vois hier, c'était le nul, ça restait encore, mais la victoire en plus là, à la fin, c'est le côté, tu sais, ça sent le côté symbole, champion, le symbole, le truc qui.
Le départ en fanfare de Ruben Amorim, quatre saisons de championnat et
bye
bye.
C'est clair.
Barcelone ou Liverpool?
Bonne question. Liverpool. Chez les fans de Barcelone, moi, je pense que c'est Liverpool, ça peut être une bonne chose parce que tu sais, c'est des clubs, mine de rien, c'est des clubs anglais, mais ils ont, c'est peut-être les seuls clubs qui ont encore de la grosse stabilité, tu vois ce que je veux dire.
Mais pas la pression du classement. Franchement, voilà. Ils ont pas trop. Ils la, dans les 5 premiers, 6 premiers, ça va, ça. Alors que Barça,
mais tu vois,
faut être dans les 2 premiers.
Bizarrement, malgré les moyens, ils ont encore ce respect pour le côté manager, tu vois. Je te dis ça, Chelsea, c'était un truc de fou. Enfin, mais moi, je te parle de ces clubs stables, bon, comme Liverpool, même Manchester, regarde, Ten Hag, tu vois, dans n'importe où tu
on a parlé depuis 15 fois qu'il allait partir, il est toujours là.
Toujours là,
Arteta avec Arsenal.
Ils l'ont laissé 3 ans, et même
Guardiola,
là,
tout le temps, Guardiola,
ouais, exactement, il laisse souvent beaucoup de temps, à part, voilà, il y a toujours des contre-exemples comme Chelsea. Mais
donc
c'est
tu
vrai.
Le verrais plus à Liverpool.
Bah, je pense que ce serait pas mal pour lui pour,
et là,
pour
le costume
une nouvelle
pour...
ère. Bah écoute, à voir. Hein. C'est comme on dit souvent, un grand joueur dans une petite équipe, quand il va dans une très... Bah, ça veut pas dire que Sporting, c'est une grande équipe, mais tu sais, là, tu vas dans un autre truc, tu vas jouer des gros matchs tous les week-ends. Et, mais je suis curieux de voir, et je serais content d'ailleurs, si c'est encore un entraîneur portugais, jeune, j'aimerais bien que,
puis
de
en
voir
ce que ça donne. En Angleterre, je pense qu'on se souvient aussi que ça a été un entraîneur qui a éliminé par exemple Arsenal.
Exactement.
Donc, il a marqué des coups là-bas. Donc,
ouais, voilà, ils ont ça, et puis tu sais, ce côté jeune un peu avec nouvelles idées. Ça plaît, tu vois. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose hein, pour lui. Vraiment, moi, je pense plus Liverpool que Barça, tu vois.
Donc, Barça pour Sergio.
Et pourquoi pas, je te dirais. Mais bon, c'est pas trop dans la philosophie. C'est pas trop dans la philosophie sa façon d'être. Mais je pense qu'il pourrait changer.
Il devrait aller dans un grand club.
Italie, je le vois en Italie, moi. Tu vois, un ancien de ces clubs comme Lazio, l'Inter, tu vois. Je le verrais comme ça, moi.
Dans un club que tu dors maintenant, je pense pas que tu dors, il va partir de
là. Non, je pense pas. Non, mais dans le championnat italien où il connaît, il est déjà passé par là. Je trouve que son style pourrait aller.
En Angleterre, ça passerait pas. Hein. C'est coup de gueule de fin de match, c'est coup de sang, ça serait compliqué.
Mais je pense qu'il s'adapterait. Il est pas con hein, quand tu l'entends parler. C'est un mec très intelligent. Tu sais, au Portugal, il en fait trop. Il en fait trop. Tu vois ce que je veux dire. Il rentre dans ce côté un peu.
Si en France, il s'était adapté. Rappelle-toi,
oui,
il
avait
un match populiste.
Voilà, exactement.
Plus posé.
Il a pas été expulsé.
Il aura ses coups de sang toujours. Ça, il les aura, mais il va se retenir un peu plus.
Tu vas pas l'Allemagne. Le Bayern n'a toujours pas d'entraîneur.
Ouais, tu penses
en plus, Xabi Alonso a dit non.
T'as raison.
Ça va être Nagelsmann qui va revenir.
Ouais, tu penses
ouais. Ah, à Bayern, non.
Oh, bah, ouais, je crois pas.
Et là, ils ont encore à la base au contrat, ils l'ont juste prêté à la sélection. Donc,
tu penses
et financièrement, il est encore bloqué. Hein.
Ah, je savais pas qu'il était encore sous contrat, tu vois, tu me l'apprends. Mais
il n'a pas retrouvé de club. Hein,
mais je pense pas qu'ils referont du show. Mais Serge Concession, est-ce que. Ils prendront le risque de prendre un entraîneur qui n'a pas. Je sais pas.
Moi, je pense que ce n'est pas compatible avec les gros caractères allemands, là, surtout au niveau de la direction.
C'est possible. Oui, c'est vrai que là-bas, c'est spécial. C'est spécial, mais après, il faut bien que quelqu'un y aille.
On voit les Latins, regarde Guardiola, il a eu du mal. Les Latins, ils ont du mal.
C'est vrai.
Sheila n'était pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Hein, non, je ne suis pas d'accord.
Honnêtement, au niveau du football portugais, je ne suis pas forcément. Donc, même les coachs dont on parle, je les connais de nom. Mais je connais pas vraiment leur style de jeu, je connais pas leur méthode. Tout ce que je sais, c'est que nous, au Barça, on n'a pas forcément une chance avec les Portugais.
Nous, à Barça.
On commence bien.
Hola, qu'est-ce que tal, hombre.
Je suis pas au Barça depuis petit, donc je dis nous. Mais on a pas
entraîneur portugais, il y en a eu?
Non, mais
au Barça,
je crois pas. On n'a pas forcément eu de chance. Pourtant, on a eu des joueurs qui étaient censés faire une carrière.
Ouais.
Enfin, moi, je parle de plus de ma génération.
Trincão.
Trincão, Gomez, Nelson Semedo,
Semedo, ça marche bien, ça n'a pas fonctionné.
Mais ça n'a pas fonctionné au Barça, c'est vrai.
Ils sont censés prendre la relève entre guillemets de Dani Alves, on n'avait pas retrouvé de latéral droit après Dani Alves.
C'est vrai.
On avait amené Semedo qui avait un style assez puissant offensivement, bon défensivement aussi, il était assez complet. Malheureusement, ça n'a pas forcément fonctionné. Après, il y a eu le 8-2 aussi qui a fait que ça a marqué son
sens au
Barça. Il a fait un match très compliqué. André Gomez, moi un joueur que j'aimais beaucoup avant qu'il arrive au Barça. Il arrive au Barça, je pense, trop de pression, un club un peu trop gros pour lui. Au final, il fait des déclarations en disant qu'il a honte de sortir dans la rue. Au final, il a plus attisé la pitié qu'autre chose. Et après, il est parti et je pense que c'est un club.
Mais les deux récents là, João Cancelo et João Félix, quand même.
João Cancelo, c'est quand même pas.
Ils ont ramené, c'est vrai, une nouvelle ère, on avait besoin d'eux. Ce qu'ils ont ramené, c'est. Après, João Félix, Cancelo, oui, Cancelo, rien à dire. João Félix, c'est un peu plus mitigé. C'est un très bon joueur, très talentueux, etc. Mais très irrégulier.
Tu le gardes ou pas?
Je le garde parce que c'est le genre de joueur qui change un match quoi qu'il arrive. Et au Barça, en tout cas, pour moi, on est toujours un grand club. Et on doit avoir ce genre de joueurs qui sont capables de faire des différences, peu importe les matchs. Jean-Félix en est un. Mais pour moi, pour qu'il passe un cap dans sa carrière, c'est la régularité.
De toute façon, Jean-Félix, il ne peut plus retourner à l'Atlético Madrid après ce qu'il a fait.
Griezmann, il avait aussi fait le con. Il est revenu et c'est à nouveau un dieu.
Apparemment, le président de l'Atlético, il a ouvert la porte là. C'est bon, il peut sortir là.
Ah, ça m'a plu, on est d'accord.
Suite au but là, où ces trucs.
Il a un peu trop fêté, je trouve.
On va continuer sur Barcelone parce que là, il y a un choc avec Paris. Ça te dit quelque chose?
Les Parisiens ont dit que c'était un tirage idéal.
Attends,
alors, est-ce que pour toi, c'est un tirage idéal?
C'est le capitaine contre le coach, là.
C'est ça.
Non, je te laisse. Vas-y, moi avec lui, vas-y.
Un tirage idéal, bah tant mieux, on soit qu'il pense comme ça. Tant mieux qu'il prenne comme ça. Nous, je sais que c'est plus le grand Barça d'avant. Mais honnêtement, je regarde les matchs du Barça et honnêtement, il y a vraiment de la qualité dans l'équipe. Il y a vraiment des bons joueurs et ils sortent des gros matchs. Ils arrivent à le faire. Pas tout le temps, c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait qu'on est classé aujourd'hui deuxième et qu'on a fait beaucoup de non-matchs. Mais moi, je pense que sur deux matchs, je pense qu'on peut faire très mal au PSG. Après, au PSG, pour moi, le facteur X, c'est Mbappé. Moi, pour moi, on leur enlève Mbappé. Le Barça est largement supérieur. Aujourd'hui, ils l'ont. Et Mbappé, c'est vraiment un joueur qui... Il peut faire la différence à tout moment. Et il y a aussi Enrique, moi je trouve qu'il fait du très très bon travail. On n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'Enrique, il fait un vrai taf avec l'effectif qu'il a. Pour moi, c'est l'effectif le plus faible depuis l'ère Qatari. Et je trouve qu'il fait un excellent travail. Moi, j'ai vu leur match à la Real Sociedad. J'ai trouvé que tactiquement, ils étaient vraiment au point. Ils ont fait un match vraiment. Et la Real Sociedad, on dit, oui, c'était sur une mauvaise phase, mais ça reste la Real Sociedad et c'est difficile d'aller jouer là-bas. Et le PSG, ce qu'ils ont été faire là-bas, c'était même, ils se trouvent assez sereins, balle au pied, etc. Des bonnes relances, ils arrivent à casser le pressing. Parce que la Sociedad, ça fait un pressing, ils ont essayé de presser très très haut. Ils l'ont même avec Vitinha, moi je trouve qu'il a fait un super match ce jour-là, il a réussi à déjouer le pressing. Donc, bon, pour revenir au PSG-Barça, pour moi c'est du 60-40. Et je mets le 60 côté PSG parce qu'ils ont Mbappé. Mais sinon, en termes d'équipe, vraiment, si on prend les joueurs les un par un, on n'a rien à leur envier. Vraiment, on a des très, très, très bons joueurs. Après, on verra.
On parle on, Barça. Hein,
c'est oui, ça. Moi, on, c'est Barça.
Quand les auditeurs, ils comprennent. Hein, parce que tu parles quand même français. Donc.
De toute façon, on va pas se mentir. À ce niveau-là, il n'y a que les ignorants qui parlent de favoritisme ou pas. En quart de finale, il n'y a pas de favori. Quoi que ce soit l'une ou l'autre, non. Faut pas dire parce que Barcelone, ils sont de loin derrière le Real.
Pour d'autres spécialistes, il n'y avait pas un joueur de Barcelone qui aurait pu être dans le 11 du PSG.
Il y a des spécialistes, ils ouvrent le champagne quand Benfica il sort et qu'il voit contre Marseille, ils disent c'est des Portugais, ça va passer. Mais non, quand on connaît, forcément il y a du talent. Moi, pourquoi être un peu aussi pour avoir vu Barcelone pas mal de fois, on sait qu'il y a des joueurs comme ça en facteur X sur un match, ils peuvent sortir du lot. Même Rafinha, il peut être de ceux-là. Lewandowski, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs buteurs encore en activité. Et puis même, j'ai oublié par les petits jeunes. Hein. Moi, j'adore Fermin Lopez. Alors, tout le monde parle des Gabi, des Pedri, mais moi j'adore aussi.
Il y a la malle aussi. Parce que Gavi et Pedri sont pas là.
Hein. Ouais. Apparemment, il y en a un des deux qui va revenir. De Jong aussi. Donc, et puis Gundogan aussi très fort. Pour moi, c'est du 50-50.
C'est la défense finalement qui est un petit peu vacillante. Hein. Araujo, c'est pas l'assurance tout risque.
Il a plus de matchs cette année, mais quand il arrive au Barça, en tout cas, c'était. Après, il fallait voir ce qu'on avait aussi à cette époque-là. Donc il arrivait en patron alors qu'il était jeune. Et Araujo, c'est un 99, je crois. Donc il arrivait de avoir 22, 23, même pas. Et il était solide, vraiment solide, puissant et rapide, fort de la tête, bon dans le duel. Là, il a un peu plus de mal. Là, il a un peu plus de mal cette saison, mais ça reste un très bon défenseur.
Et qui pour tenir Mbappé, justement ?
Il n'y a personne.
Moi, dans tous les cas, pour moi, j'ai toujours dit qu'Mbappé, vraiment, en un contre un, à part peut-être Kyle Walker, peut-être, mais...
Donc, tu mettrais deux joueurs sur lui ?
Ouais, prise à deux. Mercredi. Obligatoire. Comme avait fait un peu l'Angleterre, comme on tentait beaucoup d'équipes. Un contre un, c'est impossible.
Déjà, il faut mettre un cierge à la cathédrale pour Koundé. Tiens, Koundé, comme allez, si tu le connais.
Ah, mais Koundé le connaît. Aussi.
Oui, mais justement.
Merci beaucoup.
On arrive
dans quelques instants para a segunda hora desta emissão da Tribuna Desportiva. Deixe-se ficar na nossa companhia e vamos continuar a falar de futebol. Até já.